Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. D'ici peu, bien des gens observeront les Pâques au lieu de prendre la Pâque en temps et lieu. Ils fêteront la résurrection du Christ, le dimanche des Pâques, alors que la Bible explique d'une manière très précise que le Christ n'est pas mort un vendredi ni ressuscité un dimanche. Si vous souhaitez recevoir notre étude qui traite de ce sujet, il vous suffit de nous la demander et elle vous sera envoyée gratuitement, sans aucun engagement de votre part. La Pâque mentionnée dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament commémore la mort du Christ, la mort de l'agneau de Dieu, du Sauveur de l'humanité, qui existait dès le commencement, avant de naître comme un simple homme. Si nous remontons le temps, jusqu'à une époque antérieure à la création du monde, nous découvrons la présence d'un être divin, c'est-à-dire de l'Éternel, et son nom indique bien qui il est. En se référant à la sagesse, le livre des Proverbes relate « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. » Le mot « éternel » est traduit du tétragramme YHWH et dans sa version, le chanoine Crampon le traduit par Yahvé, d'autres par le Seigneur ou par Jéhovah, peu importe. Mais qui est ce personnage? Prenez la peine d'examiner le livre de l'Exode. Vous constaterez qu'il s'agit de l'être divin qui fit sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. L'Éternel allait devant eux. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Moïse ajoute, « Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. » L'apôtre Paul ajoute un détail, « Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Voyons maintenant ce que l'apôtre Jean écrit. Au commencement était la parole, bien avant le commencement de ce qui est physique, avant le commencement du premier verset de la Genèse qui nous raconte la création de l'univers, avant la création des anges et de Lucifer, un être existe. La Bible nous dit qu'il s'appelle la parole, le Logos, le porte-parole. Il donne des ordres, il est Yahvé, c'est l'Éternel de l'Ancien Testament, le Christ, comme nous l'avons lu dans la première lettre que Paul adresse aux Corinthiens. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole n'était donc pas seule. Elle était aux côtés d'un autre être spirituel qui, tout comme elle, était aussi Dieu. Ce que nous lisons ici, c'est exactement la description de la famille divine composée de deux personnes. Jean poursuit. Elle était au commencement avec Dieu. Il est intéressant de remarquer la manière dont Jean nous présente cette famille. Au commencement, il y avait dans cette famille deux membres qui vivaient en parfaite harmonie. Tout ce qu'ils créaient était bon et parfait, et si le chaos, le tohu-bohu a bouleversé leur création, ils n'en portent certes pas la responsabilité. Jean écrit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Tout ce qui existe, du plus petit atome à la plus grande galaxie, sans oublier le monde invisible dont nous parle la Bible, tout a été créé par la parole qui donnait des ordres, et ceux-ci étaient exécutés sur le champ. Le psalmiste ajoute « Que toute la terre craigne l'Éternel, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Jean écrit encore « En elle était la vie. » La vie n'est pas venue en elle, elle la possède, et lui appartient par nature, c'est-à-dire essentiellement. Elle n'a donc eu ni commencement de vie et n'aura ni fin de jour. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière qui luit dans les ténèbres spirituelles de ce monde n'a pas été reçue par les hommes. Il en est toujours de même aujourd'hui, puisque la plupart des hommes refusent ses enseignements. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. La véritable lumière spirituelle brille toujours. Elle ne peut s'éteindre. Elle est à la disposition de tous, mais qui la cherche ? Le monde ne l'a pas connue, mais un jour viendra où il la connaîtra, car il ne sera plus sous l'emprise du prince des ténèbres. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens parmi le peuple que Dieu avait élu pour être le sien. En effet, l'ascendance de Jésus est bien juive, car Marie et même Joseph, son père nourricier, descendaient tous deux de la tribu de Juda. Ils étaient donc juifs. Le Christ vint parmi les juifs, mais ils ne l'ont pas accepté et, pire encore, ils l'ont rejeté et ont demandé qu'il soit crucifié. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La Bible ne donne aucun détail sur la manière dont la parole devint chair, si ce n'est qu'une femme devint enceinte par la puissance du Très-Haut. Luc écrit « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu, et cette puissance recouvrit Marie comme une nuée. Remarquez le temps auquel le verbe est conjugué. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Il n'était donc pas fils lors de cette déclaration de l'ange Gabriel à Marie. Une autre prophétie déclare « Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut, et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Il ne s'agit pas ici d'un homme ordinaire, mais de quelqu'un destiné à devenir le roi le plus élevé de la terre, le premier-né de toute la création, le premier à naître de nouveau par la résurrection d'entre les morts. Quand l'apôtre Jean a-t-il pu contempler sa gloire ? Matthieu relate que le Christ a emmené Pierre, Jacques et Jean, et il leur a montré une vision, un événement qui ne s'est même pas encore déroulé aujourd'hui. Ils ont vu le Christ revenir sur terre. Cette vision, appelée aussi transfiguration, dévoila son visage resplendissant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Paul nous explique comment ce Dieu est devenu un simple homme. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Par nature, Jésus-Christ était égal à Dieu le Père. Il a accepté de se dépouiller de sa divinité afin de mourir pour tous. » Paul poursuit. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le Christ s'est dépouillé momentanément de sa divinité, de sa gloire, de sa vie éternelle, pour revêtir la nature humaine, pour devenir un simple homme et mourir pour tous. Dans ce passage, le mot « dépouillé » est traduit du grec « kinou », qui signifie « rendre vide, abaisser, neutraliser ». Jésus s'est donc dépouillé, il s'est vidé de sa gloire, de sa divinité. Il s'est abaissé en toute humilité, en devenant un simple homme comme vous et moi. si Jésus n'avait pas été Dieu, avant de se dépouiller ainsi, sa mort aurait éventuellement pu payer l'amende encourue par un seul homme, et il n'aurait pu donner la vie éternelle qu'à une seule personne. Or, il voulait sauver l'humanité entière, et seul un Dieu pouvait y arriver. La parole avait la vie en elle. Elle était la source de toute vie, elle était Dieu. Elle était le créateur de toutes choses. Sa vie valait plus que la vie de tous les êtres humains réunis. Cependant, pour sauver l'humanité, elle devait abandonner sa divinité parce qu'un être spirituel ne peut pas mourir. Paul a écrit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Voilà pourquoi le Christ, à sa résurrection, a repris non pas un corps physique, mais un corps spirituel. Toutefois, les êtres spirituels ont la possibilité de se montrer aux hommes sous une apparence physique. C'est ainsi que l'Éternel se montra en compagnie de deux anges à Abraham, au chêne de Mamré. Ils peuvent reprendre la même apparence physique qu'ils avaient eue antérieurement, ou une apparence différente. C'est ainsi que le Christ put se montrer aux siens et permettre à Thomas de toucher ses plaies, alors que Marie de Magdala, qui se tient près du tombeau, le prend pour un jardinier. Et lorsque deux disciples rencontrèrent sur le chemin d'Emmaüs, ils ne le reconnurent que lorsqu'étant à table avec eux, il rompit le pain et le leur donna. Dans Matthieu, au chapitre 1, il est écrit « On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Mais comprenez que ce Dieu avait abandonné toute sa divinité. Il s'agit bien d'un des deux membres de la famille divine, comme le confirme l'Écriture. Il s'était dépouillé temporairement de sa divinité, de sa gloire et de sa puissance. Il vivait parmi les hommes, amené à la tentation comme les hommes, avec la même nature que la leur, dans la chair sans plus. Il était mortel, afin de pouvoir sauver l'humanité de la mente, de la malédiction qui pesait sur elle par suite des péchés, de la transgression de la loi. Avant de naître, Jésus était divin, mais plus tard, il a choisi d'abandonner sa divinité pendant le cours de sa vie terrestre. Paul écrit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens, pour faire ta volonté. » Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Jésus écarta ainsi les sacrifices d'animaux par son propre sacrifice. En effet, selon le grec original, le mot « aboli » a le sens d'enlever, d'emporter, d'ôter, et le prophète Ézéchiel confirme qu'après le retour du Christ, de Yahvé, un temple sera construit à Jérusalem où il y aura encore des sacrifices qui seront des protocoles de cour. Et cela comprendra des sacrifices d'expiation, rappelant la raison du sacrifice de notre Sauveur. Je poursuivrai ce sujet la semaine prochaine et je vous montrerai que seule la Pâque biblique intervient pour une grande part dans la guérison de toutes nos maladies.